Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 22 de Saint-Luc. Donc, chapitre 22 et 23 vont raconter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le polycopier, le dernier polycopier de l'évangile selon Saint-Luc, donc, c'est le polycopier qui suit les chapitres 21, 22, 23 et 24, les derniers chapitres de Saint-Luc. Nous en sommes à la page 6, en haut de la page. Donc, on voit bien dans la passion de notre Seigneur à quel point le bon Dieu est plein de miséricorde pour nous et en même temps à quel point les meilleurs peuvent tomber sans la grâce du bon Dieu. Nous verrons dans la méditation de la passion à quel point les apôtres n'ont pas encore tout compris. Il y a deux phrases qui me semblent très importantes dans la passion à méditer. La première, c'est la phrase que notre Seigneur Jésus-Christ va annoncer à ses apôtres, un pavé dans la mare. Pendant le discours après la scène, il va leur dire « L'un de vous, en vérité, me trahira. » Et les apôtres vont être stupéfaits de cette annonce de notre Seigneur Jésus-Christ et vont dire « Mais Seigneur, est-ce moi ?» Et la deuxième phrase, qui me semble aussi très importante pour notre méditation personnelle, c'est une petite phrase qu'on a à la fin de l'agonie, au Jardin des Oliviers. Alors, tous s'enfuirent. Tous les apôtres, tous, depuis le premier jusqu'au dernier, vont s'enfuir comme des lapins. Au soir du Jeudi Saint, par peur. Alors moi, je me dis, peut-être aussi ce que vous devez vous dire, si les apôtres ont trahi, si les apôtres se sont tous enfuis alors qu'ils avaient assisté à tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils avaient eu toutes les preuves que notre Seigneur Jésus-Christ était le Messie annoncé par les Écritures, si ces apôtres, les favoris de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres qui avaient reçu des grâces extraordinaires du bon Dieu, se sont tous enfuis, et moi? Alors que va-t-il m'arriver? Si tous les apôtres ont trahi, comment puis-je persévérer sans une grâce tout à fait exceptionnelle du bon Dieu? Mais je pense qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est de se dire que le bon Dieu sait que nous sommes pauvres, que nous sommes des malades, que nous sommes des pécheurs. C'est pour ça qu'il est mort pour nous sur la croix. Et la deuxième réponse, c'est de comprendre que les apôtres ont reçu des grâces de conversion. Saint Pierre a trahi, c'est sûr. Mais Saint Pierre a demandé pardon et a été pardonné. Judas a trahi aussi, mais Judas n'a pas su demander pardon. Judas n'a pas cru à la grandeur de la miséricorde du bon Dieu pour le pécheur repentant et s'est suicidé après être tombé dans le découragement le plus complet. Mais il faut méditer ces passages de la Passion pour nous maintenir dans l'humilité. Quand on essaie d'analyser les folies de Vatican II, les folies de cette nouvelle religion des droits de l'homme, à la base, qu'est-ce qu'il y a? un orgueil incommensurable des hommes d'Église, qui se prennent pour Dieu. Je ne servirai pas. C'est le péché de Lucifer qui est renouvelé par tous les faux papes depuis Jean XXIII jusqu'à François. Alors voyons un petit peu ces textes sur la passion de notre Seigneur. Donc page 6 du Polycopier. D'abord les versets 1 et 2 du chapitre 22 de Saint Luc. Cependant la fête des Azymes appelée la Pâque était proche, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient comment ils feraient mourir Jésus, mais ils craignaient le peuple. Donc, vous savez que la Pâque, le mot Pâque veut dire passage. C'était le rappel historique du passage des Hébreux qui avaient quitté la terre promise menée par Moïse, qui avaient quitté la terre d'Égypte menée par Moïse, où ils étaient maintenus en esclavage par le Pharaon. Ils vont donc quitter miraculeusement la terre d'Égypte pour traverser la mer Rouge et regagner la terre promise, gagner la terre promise qui leur a été promise par le bon Dieu. Mais ils vont se révolter constamment contre notre Seigneur et ils vont pérégriner dans le désert pendant 40 ans. Donc la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la fausse religion à la vraie religion. Fausse religion des Égyptiens qui adoraient le soleil, qui adoraient les animaux, à la véritable religion. Voilà ce que veut dire le mot Pâque. La Pâque rappelait également un élément très important dans l'histoire des Juifs. Dieu avait envoyé Moïse pour obtenir du Pharaon qu'il libéra le peuple hébreu, le laissa partir. Le Pharaon s'était révolté contre la puissance divine et Dieu a envoyé des châtiments épouvantables. On appelle les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière, c'est l'élimination du premier-né de toutes les maisons égyptiennes, à commencer par la maison du Pharaon. Et Dieu avait demandé au peuple juif donc de se préparer, de tuer un agneau et de badigeonner le pourtour de la porte d'entrée, donc le pourtour en bois de la chambre, de la porte d'entrée de la maison des Juifs, avec le sang de l'agneau. Ainsi, pour que l'ange exterminateur qui allait être envoyé pour tuer les premiers-nés, en voyant le sang de l'agneau sur les pourtours des portes des Hébreux, passe ces maisons et ne rentre pas dans ces maisons pour tuer le premier-né de la maison. Il est évident que ce sang de l'agneau est le symbole d'un autre sang, celui qui va être répandu justement pendant la Passion, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'annonce de la messe. On voit toute une série de symboles magnifiques. Le sang de l'agneau qui représente le sang du nouvel agneau, l'agneau divin qui va être répandu pour nous et pour beaucoup pendant la Passion. Et le passage de la mer Rouge bien, représente évidemment le baptême, le passage de la mort à la vie. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Donc j'ai pas tout pris parce qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites par les pères de l'Église sur la Passion. J'ai pris les passages qui me semblent les plus importants, surtout dans saint Thomas d'Aquin, dans la chaîne d'or, et dans Cornelius à Lapide, dans son très grand commentaire, très important commentaire sur la Passion de notre Seigneur. Donc d'après saint Jean Chrysostome, les solennités des Juifs étaient l'ombre et la figure des nôtres. C'est ce qu'on appelle le sens allégorique. Le sens allégorique de l'Écriture sainte, j'ai déjà un petit peu expliqué ça, donc je repasse rapidement sur ce que j'ai déjà dit. Le sens allégorique, c'est le fait que un passage de l'Ancien Testament annonce quelque chose qui arrivera dans le Nouveau Testament. Le sens tropologique ou moral, c'est une partie de la vie, par exemple, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui annonce ce qui va se passer dans nos âmes. Et le sens anagogique, c'est une partie de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui annonce ce qui se passera à la fin des temps. Ici, c'est le sens allégorique. Donc la Pâque des Juifs représente la Pâque des chrétiens, c'est-à-dire la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'ombre qui laisse la place à la réalité. La figure qui laisse la place à la réalité, le virtuel qui s'efface pour laisser la place au réel. Si donc vous interrogez un juif sur la Pâque et les azimes, il ne vous répondra rien de bien élevé, se contentera de vous rappeler la délivrance de la captivité d'Égypte. Mais si au contraire, vous me faites la même question, dit Saint Jean Chrysostome, je ne vous parlerai ni de l'Égypte ni de Pharaon, mais de la délivrance du péché et des ténèbres du démon accomplies non par Moïse, mais par le Fils de Dieu. C'est-à-dire de même que Moïse va guider le peuple hébreu pour le sortir de l'esclavage d'Égypte et l'amener en terre promise, de la même façon, le Fils de Dieu, par sa mort sur la croix, va nous faire quitter le péché, l'esclavage dans lequel nous étions dans les pattes du démon, pour nous en faire sortir et nous mettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons que de tous les Égyptiens qui sont... les Juifs qui ont quitté la terre d'Égypte, certainement plusieurs centaines de milliers, je pense autour de 600 000, qui ont quitté la terre d'Égypte pour aller en terre promise, seules deux personnes parmi celles qui ont quitté l'Égypte vont pénétrer en terre promise, Caleb et Josué. Même Moïse, le grand Moïse, pourtant un des plus grands saints de l'Ancien Testament, même Moïse ne verra pas la terre promise. Dieu a permis ces choses-là pour nous montrer l'importance de la sainteté personnelle. Moïse avait une fois eu un doute sur la puissance de Dieu. Parce qu'en plein désert, Dieu lui a demandé de frapper un coup de son bâton sur le rocher pour abreuver les Juifs qui étaient en train de mourir de soif dans le désert et leurs troupeaux. Il a eu un doute et au lieu de frapper une fois, il a frappé deux fois le rocher. L'eau s'était coulée hors du rocher, mais à cause de ce manque de foi, Moïse n'a pas pu pénétrer en terre promise. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'y est pas pénétré. Donc, cette fête de Pâques, fête des azimes, donc annonce cette délivrance du péché, non seulement la délivrance du péché, mais délivrance de l'esclavage du démon. C'est ça le drame, c'est que lorsqu'on commet un péché grave, on se place littéralement volontairement dans le pouvoir du démon. Il faut méditer souvent là-dessus. Imaginez une âme qui passe à trépas, un homme qui passe à trépas en état de péché mortel. Il y aura son jugement particulier, parce que tout homme sera jugé au moment de sa mort, quel qu'il soit catholique ou non. Au moment de la séparation entre le corps et l'âme, il y a un jugement particulier. On l'appelle particulier, mais il n'est pas si particulier que ça, je vous l'ai déjà expliqué souvent, il y a plusieurs personnes qui seront là. Il y aura notre Seigneur Jésus-Christ, le juge suprême, bien sûr, notre Sainte Vierge Marie, Saint Michel, patron de la bonne mort, avec Saint Joseph également, patron de la bonne mort. Il y aura l'ange gardien, mais il y a aussi le démon qui va venir. Et si cette âme est en état de péché mortel au moment de sa mort, le démon aura le droit de se présenter devant Dieu, devant son Créateur, puisque le démon est un ange qui a été créé par Dieu, comme tous les anges. Il aura le droit de venir se narguer notre Seigneur Jésus-Christ en disant à notre Seigneur Jésus-Christ, « Cette âme m'appartient. Cette âme-là que vous tenez entre vos mains, que vous avez créée dans une pensée d'amour, elle m'appartient. Parce que cette âme est morte en mon pouvoir, donc je l'emporte avec moi en enfer. » Et la personne ne pourra rien faire. Dieu lui-même ne peut pas sauver une âme qui est morte en état de péché mortel. Qui n'est pas morte, un homme qui est mort en état de péché mortel, puisque l'âme est immortelle. C'est ça qui est terrible. Notre Sainte Vierge Marie va pleurer certainement, l'ange gardien va pleurer, Saint Joseph va pleurer. Dieu lui-même, s'il pouvait pleurer, pleurerait de voir cette âme qu'il a créée pour le ciel et qui a préféré volontairement se livrer entre les mains du démon. Et Dieu lui-même, malgré toute sa puissance, ne peut pas faire qu'une âme qui est en état de péché mortel au moment de la mort puisse retrouver l'état de grâce. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans le temps. On est passé dans l'éternité. La mort, c'est pas simplement la séparation entre le corps et l'âme. La mort, c'est le passage du temps à l'éternité. Qui dit éternité, dit absence de temps. J'ai souvent parlé de ça dans les sermons, mais je pense que c'est très important à comprendre. On a besoin de temps pour changer. Le temps, c'est quoi ? C'est le passage de la puissance à l'acte. Le mouvement, c'est ça. Le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. D'une certaine façon, le temps est représenté par le mouvement. Le temps, c'est du mouvement. J'ai souvent donné cet exemple que ma mère m'avait fait remarquer quand j'ai appris le catéchisme, quand j'avais 4-5 ans. Ma maman utilisait pour m'apprendre le catéchisme la miche de pain. La même miche de pain que j'ai toujours dans mon bureau et que j'utilise moi-même quand j'enseigne les tout-petits. Et pour représenter justement cette absence de temps, dans l'image de l'enfer, c'est que la miche de pain, c'était des petits feuillets, c'était juste après-guerre. C'était Élaïe, je crois, qui avait fait ça. Et bien, il y avait une image, avec de l'autre côté, à gauche, il y avait l'image, et à droite, il y avait un petit texte écrit, en gros caractère, qui expliquait en quelques mots l'image. Donc, à la fois, l'enfant apprenait le catéchisme, apprenait à lire, moi j'ai appris à lire comme ça. Et pour expliquer cette absence de temps, il y avait donc la terre, avec 7 puits, dans lesquels tombaient les âmes des hommes qui mouraient un tas de péchés mortels, qui tombaient en enfer. Et sous la surface de la terre, on voyait l'enfer avec un énorme démon, Lucifer, qui accueillait avec cruauté ces âmes qui tombaient en son pouvoir. Et au-dessus de la tête de Lucifer, il y avait une horloge. Mais une horloge sans aiguille. Ma mère m'a expliqué, quand j'étais tout enfant, il n'y a pas d'aiguille parce qu'il n'y a plus de temps. Les aiguilles sur une montre marquent le temps parce que ces aiguilles vont se déplacer au cours de la journée pour marquer le temps qui passe. Et qui dit temps, dit possibilité de changement. Mais une fois qu'on est dans l'éternité, on n'est plus dans le temps, donc il n'y a plus de possibilité de changer. C'est pour cela qu'une âme qui tombe en état de péché mortel ne peut plus changer. Souvent, on entend des fidèles me dire, j'ai entendu souvent cette remarque, mais monsieur l'abbé, vous n'allez pas redire ça, parce que Dieu est tout puissant, et Dieu pourrait très bien, dans sa miséricorde, changer une âme qui meurt en état de, qui apparaît en Dieu, devant Dieu en jugement, en état de péché mortel, pour justement exercer sa miséricorde sur cette âme en état de péché mortel et la remettre en état de grâce. Non, c'est pas possible, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est métaphysiquement impossible. Dieu ne peut pas faire un cercle carré. C'est impossible. Parce qu'un cercle et un carré sont deux choses contradictoires. Dieu ne peut pas faire qu'une personne qui meurt en haine de Dieu et qui ne peut plus changer parce qu'il n'est plus dans le temps, mais qu'il est passé dans l'éternité, que cette personne puisse aller au ciel, c'est pas possible. Faut méditer là-dessus. Il y a une exception. L'exception, c'est le purgatoire. Et les fins dernières, le jugement particulier, le jugement général, l'enfer, le ciel et le purgatoire. Le purgatoire, c'est une exception, et puis on faut rajouter les limbes pour les enfants morts sans baptême. Purgatoire est une exception, parce que purgatoire n'est pas dans l'éternité, mais dans le temps. Quand on tombe en purgatoire, pour se purifier avant de rentrer au ciel, de monter au ciel, on y est pour un certain temps. Le purgatoire n'est pas éternel. Contrairement au paradis, qui est éternel, et l'enfer, qui est éternel. Bon, je vous fais remarquer ce que j'ai déjà souvent dit, que lorsqu'on parle de l'éternité des feux de l'enfer, de la peine du damné en enfer, c'est une façon de parler, parce que l'enfer n'est pas éternel métaphysiquement parlant, pour la bonne et simple raison que l'enfer a été créé, n'a pas toujours existé quelque chose de qui est éternel, c'est quelque chose qui a toujours été. Le seul être éternel, c'est Dieu. Le paradis est éternel, parce que le paradis, c'est Dieu. Mais l'enfer n'est pas éternel, parce que l'enfer a été créé au moment de la chute de Lucifer et des mauvais anges. Donc, cette fête de Pâques, cette fête des Azimes, la fête des Azimes ou la fête de Pâques, c'est la même chose. Chez les Hébreux, c'était la même chose. Donc, représente la délivrance du péché, des ténèbres, du démon, accomplie par le Fils de Dieu. Le péché représentant quelque chose d'infini, puisque le péché, c'est la révolte contre l'infinité de Dieu, donc il y a une partie infinie dans le péché, seul un être infini peut rattraper le péché. Voilà pourquoi Dieu, le Père, a dû envoyer son propre Fils, c'est-à-dire lui-même, pour rattraper le péché par sa mort et ses souffrances. Ses souffrances et sa mort. Le sens mystique, est ici donné par le peuple, Odapalchis, le sens mystique de cette interprétation est que Jésus-Christ, qui a souffert une fois pour nous, nous fait un devoir de vivre dans les azimes de la sincérité et de la vérité, le texte de saint Paul, pendant toute la durée de cette vie qui se compose de révolutions successives.
de 7 jours. Donc ça montre que la vie passe comme le temps qui passe, la succession des jours représente ce passage du temps qui nous mène vers l'éternité. On est en quelque sorte, chaque jour qui passe, chaque tour d'horloge qui passe nous rapproche de notre éternité. L'homme est créé pour l'éternité. Tout homme, toute âme est créée pour l'éternité. Ou une éternité bienheureuse, ou une éternité malheureuse pour ceux qui refusent volontairement leur union à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça le drame? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, malgré la toute-puissance de sa grâce, n'a pas voulu être servi par des robots. Nous ne sommes pas des machines. Ce mystère est un mystère insondable. Hein. Comment la toute-puissance de Dieu peut-elle respecter le libre arbitre de l'homme? C'est un grand mystère. Il faut méditer là-dessus. Donc Dieu veut que nous allions au ciel avec lui, mais il ne va pas nous obliger à aller au ciel. Dieu nous présente sa main secourable, nous sommes au fond du puits, mais il ne va pas nous obliger à prendre la main qui nous est tendue pour nous sortir du puits. Et si j'estime que je suis capable de sortir du puits, Dieu sait très bien que c'est impossible de sortir du puits par mes propres forces. Dieu le sait, il cependant va respecter notre libre arbitre. C'est à la racine du protestantisme. La racine du protestantisme, c'est ça, c'est une incompréhension de ce grand mystère. Et Luther a fini par en arriver à la conclusion que Dieu nous demandait des choses impossibles. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, parce que avec la tentation, nous aurons toujours les moyens de nous en sortir. Avançons avec les versets 3, 4, 5 et 6 du chapitre 22 de Saint-Luc. Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, l'un des 12. Et il alla et s'entretint avec les princes, les prêtres et les magistrats de la manière dont il leur livrerait. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il s'engagea et cherchait une occasion favorable pour le livrer à l'insu des foules. Donc les Juifs avaient peur que la foule ne se révoltât. Parce que beaucoup de Juifs, c'est bien une preuve là, beaucoup des Juifs aimaient notre Seigneur. N'oublions pas que notre Seigneur, pendant ses 3 ans de vie publique, a multiplié les miracles. Il y avait des tas de Juifs qui avaient eu un membre de leur famille qui avait été guéri, un aveugle qui avait été retrouvé la vue par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, un sourd, un muet, un paralytique qui avait retrouvé l'usage de leur sens, l'usage de leurs membres par l'intervention divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui avaient été nourris par la multiplication des pains, qui avaient assisté à tous ces miracles extraordinaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas non plus croire que tous les Juifs étaient contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'était surtout les Sanhédrins, et encore pas tous les membres, parce qu'il y avait des membres du Sanhédrin qui étaient pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et la plupart des autorités politiques de l'époque, et des autorités religieuses de l'époque, c'est vrai, étaient contre notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs vont abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils avaient été sauvés par lui, dans un membre proche de la famille, par exemple. Mais pas plus... Ils n'ont pas plus abandonné notre Seigneur Jésus-Christ que les apôtres ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a même certainement beaucoup plus souffert de l'abandon des apôtres que de l'abandon des juifs qui n'étaient pas apôtres ni disciples. Quand on est un ami intime de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a été choisi par lui comme les apôtres, il est évident qu'une trahison des apôtres est bien plus grave que la trahison d'un Pilate, ou d'un Hérode, ou d'un Caïphe, ou d'un Anne, ou d'un membre de la société politique juive de l'époque. Hein? Saint Bède le Vénérable nous fait remarquer combien en est-il qui ont en horreur le crime de Judas et qui ne laissent pas de l'imiter. Car celui qui viole les droits de la charité et de la vérité trahit notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité et la charité. Surtout lorsque sa trahison n'est l'effet ni de la faiblesse ni de l'ignorance, mais qu'à l'exemple de Judas, il cherche l'occasion de trahir sans témoin la vérité par le mensonge et la vertu par le crime. Hein? Hélas, très nombreux sont ceux qui vont trahir. Rappelez-vous qu'au dimanche des Rameaux, l'ensemble de la ville de Jérusalem, pratiquement, vient accueillir notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive sur chevauchant un petit ânon. Et on on organise une grande fête et tout le monde vient applaudir et tout le monde vient crier, hurler des cris de joie, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et on coupe les branches d'arbres et on fait un chemin triomphal sous les pattes de l'ânon et sous notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive juché sur ce petit âne, et c'est la grande fête. C'est magnifique. Le problème, c'est que 5 jours plus tard, au soir du jeudi saint, au vendredi saint, eh bien, ces mêmes personnes sont sous le balcon de Ponce Pilate en train de hurler qu'il soit crucifié. Ça, c'est notre histoire. Hein. Et donc, il faut vraiment méditer là-dessus. Moi, je médite souvent là-dessus parce que c'est une chose qui, humainement parlant, est un peu paniquante, j'avoue. Dire, mais si les apôtres ont tous trahi notre Seigneur Jésus-Christ, quelles sont mes chances que je ne trahisse pas notre Seigneur ? Elles sont pratiquement nulles. Et c'est là où il faut se précipiter dans la miséricorde du bon Dieu, surtout après le péché, l'homme est pécheur. La seule personne qui a jamais péché, n'oublions pas, c'est notre Sainte Vierge Marie, hein, et notre Seigneur bien sûr. Notre Sainte Vierge Marie est l'unique personne qui n'a jamais commis de péché. Même le juste pêche 7 fois par jour, au moins un péché de fragilité, un péché vénial. Il est impossible pour un homme de passer une seule journée sans au moins un péché de fragilité ou un péché vénial, c'est impossible. Il faudrait des grâces tout à fait particulières du bon Dieu. Et le bon Dieu n'a donné cette grâce qu'à sa mère. Il aurait pu donner, créer tous les hommes comme il a créé sa très sainte mère avec l'Immaculée Conception. Il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Il n'aurait jamais eu Adam et Ève. C'est là le mystère du bon Dieu qui a voulu créer les hommes, mais avec le libre arbitre. On voit la même histoire avec la création des anges. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a créé les anges, qui a créé les anges en état de grâce? Pourquoi a-t-il voulu placer les anges devant une épreuve? Pourquoi n'a-t-il pas créé des milliards d'anges à son service, et puis laissé ses anges constamment à son service, puis après créer les hommes? Eh bien, il avait une autre idée en tête. Il faut méditer là-dessus pour se maintenir dans la vertu d'humilité. Si Judas avait accepté cette miséricorde du bon Dieu à son égard, comme Saint Pierre l'a fait, eh bien nous aurions aujourd'hui un Saint Judas. On voit exactement la même histoire. Moi, c'est une autre chose qui me frappe beaucoup dans la Passion, avec l'histoire des deux larrons. Donc deux bandits, deux bandits qui avaient fait des vertes et des pas mûres, comme on dit vulgairement, qui sont tous les deux à quelques mètres de notre Seigneur Jésus-Christ sur une croix. L'un à droite, l'un à gauche. L'un à droite, c'est Dismas, l'un à gauche, c'est Gestas. L'un va se sauver à la fumée des cierges. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Il fait un acte de foi, d'espérance et de charité qu'il n'a pas pu faire par ses propres forces. Dieu a donné à Dismas une grâce toute particulière pour qu'il puisse prononcer cette parole. Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et donc, élicité par cette parole, un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Comme c'est un acte de charité parfaite, un regret de ses péchés par pur amour du bon Dieu, à cause d'une grâce extraordinaire qu'il a reçue du bon Dieu, qu'il est pratiquement l'unique personne à avoir reçue de cette façon, dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, Dismas va devenir Saint Dismas. Il va monter au ciel. La première personne à utiliser les grâces de la Passion, c'est un bandit converti. Et par contre, son ami, Gestas, son copain, qui est à gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas plus éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ que Dismas en était lui-même, ne va pas se convertir. Il va tomber en enfer. On voit aussi la même chose avec Caïn et Abel, les deux premiers hommes, après Adam et Ève. Caïn va littéralement mourir martyr, Abel va littéralement mourir martyr, et Caïn va sans doute se damner. C'est pas très bien, mais enfin, il y a des chances. Mais cela doit nous maintenir dans l'humilité, c'est la miséricorde du bon Dieu qui s'exerce avec totale liberté. C'est un très très grand mystère. Il faut méditer, mais en même temps, il faut méditer en observant la miséricorde infinie du bon Dieu sur nous. Sinon, on se décourage. On se décourage. On tombe dans le fatalisme. C'est ça qui est terrible dans l'islam, qui est terrible aussi dans l'hindouisme, le fatalisme. C'est écrit. C'est écrit. On a notre karma à faire, comme disent les bouddhistes, comme disent surtout les hindouistes. Cette phrase qu'on entendait tout le temps dans les pays musulmans, je suis né dans un pays musulman, au Maroc, et c'était une phrase qu'on entendait tout le temps quand j'étais gamin. C'est écrit dans le livre. Donc Dieu a décidé par avance si je vais au ciel ou en enfer. Alors évidemment, pour pousser les gens dans le désespoir le plus complet, c'est pas mal. Vous voyez? Et on voit la même chose dans l'hindouisme avec le système des castes. Vous êtes né dans une caste, vous restez dans cette caste pendant toute votre vie, il n'y a aucune possibilité de passer dans une autre caste, et donc il y a cette espèce de roue qui tourne constamment avec ce karma de purification qui nous fait passer après la mort, par la transmigration des âmes, qui va nous faire passer dans une caste supérieure. Et c'est pas comme ça que bon Dieu a voulu les choses. Donc se maintenir dans l'humilité, rappelez-vous cette magnifique prière de saint Philippe Néri qu'il disait tous les matins, tous les soirs, « Ô Seigneur, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman. » Après certains historiens disaient « Sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire juif, entrer chez les juifs. » Donc se maintenir dans l'humilité. Donc Judas aurait pu devenir saint Judas s'il avait écouté la miséricorde du bon Dieu, s'il avait accepté d'ouvrir son âme à la miséricorde du bon Dieu. Et le drame, c'est que quand quelqu'un tombe en enfer, il ne peut pas dire c'est la faute du bon Dieu, j'ai pas reçu les grâces. Si je tombe en enfer, c'est ma faute. Si je vais au ciel, c'est la grâce à Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas dire je suis tombé en enfer, c'est pas de ma faute, c'est la faute du bon Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas dire je suis au ciel, dans la gloire du bon Dieu. C'est grâce à mes propres forces que je suis monté ici. Non. Si je suis tombé en enfer, c'est de ma faute. Si je suis monté au ciel, c'est grâce à Dieu. Dieu qui a exercé sa miséricorde à mon égard. Et donc se maintenir dans l'humilité. L'humilité est vraiment la clé de tout. Celui qui est humble se sauve. Celui qui est orgueilleux se damne. Rappelez-vous la parabole magnifique du publicain et du pharisien à l'entrée du temple. Le pharisien est sorti du temple non justifié, le publicain est sorti justifié. Avançons avec les versets 7 à 13. Cependant, arriva le jour des azimes où il fallait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, préparez-nous la Pâque afin que nous la mangions. » Et lui dire « Où voulez-vous que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au père de famille de cette maison, le maître vous dit, « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et là, faites les préparatifs. S'en allant donc, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc cette Pâque, je vous l'ai déjà expliqué, c'était le symbole du passage, donc un rappel de l'histoire du peuple hébreu. Et ils faisaient un repas, les Juifs faisaient un repas, et toute la famille, donc avec un agneau qui était consommé, ils consommaient cet agneau pascal debout, pour se rappeler que leur père avait été des pèlerins à la sortie d'Égypte pour aller rejoindre la terre promise. Les pères de l'Église font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples dans une maison étrangère préparer la Pâque. Donc les disciples vont demander où est la salle où notre Seigneur pourra manger la Pâque avec ses disciples. Donc cette maison est étrangère car ni lui, ni ses disciples n'avaient de maison en propre. Autrement, ils eût célébré la Pâque chez l'un d'eux. Et lui dire donc, où voulez-vous que nous la préparions ? Encore une fois, on voit à quel point notre Seigneur Jésus-Christ insiste sur le fait que nous sommes des pèlerins. Les anciens avaient un mot qui a pratiquement disparu dans la langue française, le mot viateur. Nous sommes des viateurs. Qu'est-ce que ça veut dire un viateur ? C'est un mot qui, je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire. Viateur, un viateur, c'est celui qui est sur la via. La via, c'est le chemin. Donc le viateur, c'est le pèlerin. Le pèlerin qui n'a pas de maison propre, qui marche le long du chemin. Il a un but, et ce but, c'est le ciel. Donc notre maison, c'est le ciel. Nous sommes sur la terre que de passage, comme des pèlerins. Et tout le monde moderne cherche à transformer ce pèlerinage pour qu'il s'arrête ici-bas. Vous voyez tous ces fous modernes qui n'ont qu'un rêve de devenir immortels. C'est un milliardaire qui... Ils en arrivent à vouloir pratiquement changer leurs organes les uns après les autres, en prenant les organes de ces où, pour pouvoir atteindre l'immortalité, le grand rêve de la vie éternelle ici-bas sur la terre. Mais la vie éternelle est au ciel, hein, ou en enfer, malheureusement, pour ceux qui refusent notre Seigneur. Passons à la page 7. D'autres commentaires des pères. Saint-Bède le Vénérable, de nouveau lui. C'est comme s'il disait, nous n'avons ni demeure, ni habitation. Entendez ces paroles, vous qui mettez tous vos soins à vous construire des maisons sur la terre et apprenez que le Christ, le maître de toutes choses, n'avait pas même où reposer sa tête. Et je pense, dans l'éducation qu'on donne à ses enfants, il faut beaucoup insister sur ce point. Expliquer à nos enfants, nous sommes des viateurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage, nous n'avons pas une vie permanente ici-bas sur la terre. Que représente 90 ou 95 ans même de vie de misère sur la terre par rapport à toute l'éternité au ciel? Mais c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans la mer. Vous rajoutez une goutte d'eau dans l'océan Pacifique, qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'eau? Rien. Une goutte d'eau, c'est rien, c'est insignifiant. Eh bien, la vie sur la terre, le temps passé ici sur la terre, même de 90 ou 95 ans, représente une goutte d'eau dans la mer, parce que cette goutte d'eau sur la terre est à la terre, ce que la mer est à l'océan Pacifique, est au ciel. Et encore, ce n'est qu'une comparaison. Parce qu'on pourrait, à la rigueur, calculer le nombre de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de gouttes d'eau qu'il y a dans l'océan Pacifique. Et bien, ce milliard, de milliards, de milliards, de milliards de gouttes d'eau dans l'océan Pacifique est un nombre réel, donc limité par définition. Or, le temps au ciel, au paradis, n'est plus limité. Encore une fois qu'on a compris ces choses-là, on comprend à quel point ça vaut le coup de souffrir ici-bas. Les souffrances d'ici-bas sont sans proportion avec la joie de ceux qui habitent au ciel. Rappelez-vous Saint-Pierre d'Alcantara qui est passé sa vie à faire pénitence, un compagnon de Sainte-Thérèse d'Avila en Espagne. Saint-Pierre d'Alcantara qui, après sa mort, il fait une pénitence terrible, terrible, et il apparaît à Sainte-Thérèse dans toute sa gloire au ciel. Et il dit à Sainte-Thérèse d'Avila, ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. Vous voyez ? Alors avançons dans ces commentaires des pères. Par le jour des azimes, en haut de la page 7, le deuxième paragraphe, par le jour des azimes, ils nous font entendre cette vie lumineuse et toute spirituelle qui n'a rien de commun avec la vie ancienne. Suite de la faute de notre premier père, et lorsque nous vivons de cette vie, nous devons mettre toute notre joie dans le mystère de Jésus-Christ. Donc la fête de Pâques, encore une fois, était la fête du passage qui rappelait justement ces choses essentielles. Et systématiquement, l'ancien de la maison devait expliquer aux enfants, aux jeunes, la raison de cette fête de Pâques. Et pour bien montrer que ce voyage sur la terre a un but, c'est le ciel, eh bien les apôtres, le peuple juif quittant l'Égypte va se diriger vers la terre promise. Mais tous ne vont pas y arriver encore. Il y a que deux personnes, Josué et Caleb, qui vont arriver en terre promise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que deux personnes qui sont arrivées en terre promise, non. Mais sur tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, deux seulement vont arriver en terre promise. Après, il y a tous les enfants qui sont nés pendant la pérégrination à travers le désert, pendant les 40 ans. Donc les joies d'ici-bas n'ont rien à voir avec les joies du paradis. Les joies d'ici-bas, si vous voulez, plus on en a, plus on s'en dégoûte. On le voit très bien avec les gens d'ici-bas. Ils en ont jamais assez. Ils en ont jamais assez. Je me rappelle une fois, j'avais assisté comme ça à une histoire invraisemblable. Une dame qui venait acheter un nouveau set pour son, comment on dit en français, je ne sais plus, un nouveau équipement pour sa salle à manger, pour son salon. Elle voulait changer les fauteuils de son salon et le fauteuil de son salon, le divan du salon, et elle veut changer. Et le marchand lui fait remarquer que ce qu'il voit le matériel, et il dit, mais votre matériel est en parfait état. Ah oui, mais vous comprenez, ma voisine a acheté le même. Ma voisine a acheté le même. Donc elle voulait tout changer parce que sa voisine avait le même. C'est vraiment la folie du monde moderne. La folie du monde moderne. Vous voyez tous ces millionnaires, vous avez des milliards et des milliards d'euros dans vos comptes. À quoi ça sert de vouloir en gagner plus? Puisqu'on a déjà des milliards, on ne pourra même pas tout dépenser d'ici-bas sur la Terre. Ah mais ils n'en ont jamais assez, ils veulent toujours de puissance. On voit très bien avec nos politiciens d'aujourd'hui qui ne pensent qu'une seule chose, ça s'en met plein les poches. Ils n'en ont jamais assez. Eh bien, c'est la folie des gens qui n'ont pas compris qu'on était sur la Terre qu'en passage. On va au ciel. C'est là où le bon Dieu nous attend. Et dans les moments de difficulté, les moments de désolation, il faut se rappeler ces règles essentielles. Nous sommes des êtres d'éternité. Nous sommes appelés par Dieu pour le ciel. Donc nous devons mettre toute notre joie dans les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. On a les deux pieds sur la terre, mais il faut garder la tête au ciel. La tête au ciel. Les pères de l'Église font remarquer que même l'homme est fait sous la forme d'une croix. Mettez vos deux bras à l'horizontale, avec la tête en haut, le corps et les pieds vers le bas, les deux mains étendues sur le côté, on a la forme d'une croix. C'est pas pour rien qu'on a la forme d'une croix, font-ils remarquer. Et on tient debout sur la terre, justement, pour nous rappeler que même si on a les deux pieds sur la terre, notre tête doit être tournée vers le ciel. Et on voit très bien d'ailleurs dans la physique, la vie physique, je sais bien que ça fait grincer certaines dents, mais n'oublions pas que au début, c'est le premier mot de la Bible, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il y a deux choses, il y a le ciel et la terre ici-bas. La terre est donc le centre du monde et tout tourne autour de cette terre ici-bas. Mais avant la terre, il y a le ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. C'est pour ça que la Bible dit bien que Dieu a commencé par créer le ciel d'abord, puis la terre. Le ciel, c'est la vision permanente de notre Seigneur Jésus-Christ. La terre, c'est un lieu de passage. Donc, tout tourne autour de la terre. Je suis un géocentriste convaincu. D'ailleurs, c'est l'enseignement de l'Église. L'Église a toujours été regardée avec beaucoup de faveur, le géocentrisme. L'héliocentrisme qui prétend, c'est les erreurs de Galilée, qui prétend que tout tourne autour du soleil, c'est absolument ridicule quand on voit que le soleil lui-même se déplace. Donc tout tourne, et tourne autour de quoi? Quel est l'axe qui tourne? L'axe autour duquel tourne l'univers, eh bien, c'est la Terre. La Terre est au centre de tout. Pourquoi? Parce que la Terre a été l'unique endroit choisi par notre Seigneur Jésus-Christ pour le mystère de l'incarnation et pour le mystère de la rédemption. C'était la devise des Chartreux. Le monde tourne, le globe terrestre tourne, la croix demeure. Et il faut encore une fois méditer sur ces choses-là. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent plus ces choses-là. La Terre est au centre parce que la Terre est l'unique endroit qui a été choisi par notre Seigneur Jésus-Christ pour unir sa divinité avec notre humanité. C'est aussi le ridicule, autre exemple du ridicule de l'homme moderne, et ces milliards qui sont dépensés pour essayer de communiquer avec les soi-disant extraterrestres. Il y a des extraterrestres, ils s'appellent les anges. Ce sont les seuls extraterrestres avec une intelligence qui existe. Dieu a créé les anges et les hommes, et puis c'est tout. Les deux êtres avec une âme spirituelle, une âme intellectuelle, sont les anges et les hommes. Les anges qui comprennent les choses par intuition, les hommes qui comprennent les choses par abstraction, et c'est tout ce qu'il y a. Donc il n'y a pas d'extraterrestre avec une intelligence. Donc les petits bonshommes verts sur les soucoupes volantes, c'est la nourriture pour chiens, pour les enfants, des petites histoires pour les enfants, pour faire peur aux enfants qui ne veulent pas dormir la nuit, c'est tout. Et ne pas avoir peur d'affirmer le géocentrisme qui est capital pour justement nous rappeler que Dieu a voulu tout centrer sur sa croix, donc sur l'incarnation. Donc c'est Saint Jean et Saint Pierre qui nous préparent ces mystères, nous disent les pères, c'est-à-dire l'action et la contemplation. La ferveur du zèle La ferveur du zèle est la douceur de la paix. Donc, l'un représente le zèle, l'autre la paix, Saint Jean et Saint Pierre. Ces deux disciples rencontrent un homme parce que ces deux vertus nous font retrouver l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est le verset 8, Jésus qui envoie Saint Pierre et Saint Jean. Et vous rencontrerez, nous avertit notre Seigneur, un homme portant une cruche d'eau. Voilà. Et vous demanderez où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Donc, c'est des disciples qui rencontrent un homme, rappellent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est pour cela, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que Dieu envoie son Fils pour mourir pour l'homme. Dieu ne va pas envoyer son Fils pour mourir pour les animaux, pour un chat ou pour un chien, parce qu'ils n'ont pas d'âme raisonnable. Ils ont une âme végétative, ils ont une âme sensitive, ils n'ont pas d'âme intellectuelle. Alors, voyons un petit peu les différents symboles expliqués par les pères. L'homme porte une cruche d'eau. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Cet homme qui porte une cruche d'eau, donc, symbolise la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme une eau bénéfique qui va s'écouler sur l'âme. Le vase, lui, représente l'humilité du cœur. On a l'impression qu'un vase, ça sert à rien, c'est en argile, ça ne sert pas à grand chose, et bien pourtant, s'il n'y a pas de vase, bien, l'eau ne peut pas être maintenue. Vous mourrez de soif, mais si vous n'avez pas un vase pour porter votre eau et venir alimenter la maison, les gens qui habitent dans la maison et de l'eau qu'on puisse boire pour sortir de cette soif intense qui est la nôtre, eh bien, on ne peut rien faire. Donc, il faut que l'eau soit dans un vase. Le vase, c'est quelque chose d'argile, quelque chose d'une matière qui n'est pas noble du tout. L'eau est quelque chose de noble, pas le vase. Pourtant, le vase est nécessaire pour que l'eau puisse arriver sur la personne, dans la personne. Donc, ce vase représente donc l'humilité du cœur, car Dieu ne donne sa grâce qu'aux humbles qui reconnaissent qu'ils ne sont que cendre et poussière. Tu es poussière, en poussière tu retourneras. Et rappelez-vous ce qui est dit par le prêtre au moment où il vous marque le front avec la croix faite avec les cendres, le jour du mercredi saint. Donc ce vase, d'après saint Ambroise, c'est la mesure de la perfection, et cette eau est celle qui a mérité de devenir la matière du sacrement de Jésus-Christ, de purifier au lieu d'être elle-même purifiée. Donc on retrouve l'eau dans le sacrement de baptême, bien sûr, qui est la porte de tous les sacrements, mais aussi dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est pour cela que du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa passion, sont sortis le sang et l'eau. Le sang, c'est le sang de la Sainte Messe, et l'eau, c'est l'eau du baptême. Et c'est pour cela que pendant l'offertoire, le prêtre va rajouter une petite goutte d'eau au vin qui est déjà dans le calice. Et cette goutte d'eau représente la participation des fidèles. L'eau va se mélanger au vin, va devenir du vin. Mettez une goutte d'eau dans une partie plus importante de vin, l'eau va se transformer en vin, et ensuite ce vin va se transformer au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La substance du vin va disparaître pour être remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Origène, cet homme que les disciples rencontrèrent à la rentrée dans la ville portant une cruche d'eau était, à mon avis, dit saint Origène, il n'est pas saint, mais c'est quand même un très grand docteur de l'Église. Alors, je répète, cet homme que les disciples rencontraient à la rentrée dans la ville portant une cruche d'eau était, à mon avis, un des serviteurs du père de famille qui portait dans un vase de terre l'eau destinée à la boisson, aux purifications, les cales. Et je pense qu'il était la figure de Moïse, dont la doctrine spirituelle était contenue dans le récit des faits extérieurs. C'est pour ça que cet homme va amener au maître de la maison, au père de famille, chef de la maison, dans laquelle les disciples vont célébrer la Pâque avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça représente Moïse qui va guider le peuple hébreu de la terre d'Égypte à la terre promise. Et ceux qui ne peuvent atteindre à cette doctrine spirituelle ne célébreront donc point la Pâque avec Jésus, disent les pères. Montons donc avec le Seigneur lui-même, qui est au milieu de nous, à cet endroit plus élevé où se trouve le lieu du festin, et que l'intelligence, figurée par le père de famille, découvre à chacun des disciples de Jésus-Christ. Vous voyez comment les pères de l'Église avaient une vision totalement différente des choses. N'oublions pas que les pères de l'Église étaient historiquement parlant beaucoup plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ que nous. D'où vient cette interprétation de l'Écriture sainte? C'est ce sens caché de l'Écriture sainte. On voit très bien chez les pères de l'Église, l'ensemble des pères de l'Église, pratiquement tous insistent énormément sur ce sens caché de l'Écriture sainte, qui est tellement méprisé par le monde moderne. Le monde moderne pense que le sens caché de l'Écriture sainte, tel qu'il est expliqué par les pères de l'Église, c'est une espèce de poésie. Mais non, c'est pas du tout de la poésie, c'est qu'il y a quelque chose qui est manifesté derrière. Le passage, par exemple, le miracle du peuple juif qui traverse la mer Rouge à pied sec, représente quelque chose d'autre. C'est le sens allégorique du passage par le baptême. Le baptême est un lieu de passage. Abraham qui met sur le bois de son fils Isaac, pardon, sur le dos de son fils Isaac, le bois de l'Holocauste qui monte au calvaire, au mont Moria, qui monte au calvaire pour immoler son fils à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, ça n'a aucun sens si on n'a pas compris que Abraham représente Dieu le Père qui va envoyer son propre fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être immolé au sommet du calvaire. La différence, elle est pourtant de taille, c'est qu'un ange va être envoyé par Dieu pour arrêter le bras d'Abraham alors qu'il a lié son fils sur le bois du sacrifice. Et l'ange va être envoyé pour arrêter le bras d'Abraham. Alors ce n'est pas le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, et Dieu le Père, ne va pas envoyer un homme pour arrêter le massacre de son fils. Non, il va vouloir que son fils meure sur la croix pour nous. Donc, ceux qui ne peuvent atteindre à cette doctrine spirituelle ne célèbrent point la Pâque avec Jésus. Montons donc avec le Seigneur lui-même qui est au milieu de nous. À cet endroit plus élevé se trouve le lieu du festin que l'intelligence, figurée par le Père de famille, découvre à chacun des disciples de Jésus-Christ. Donc, nous approchons de notre Seigneur Jésus-Christ par l'usage de notre intelligence. Pourquoi ? Parce que l'objet propre de notre intelligence, c'est le vrai. De même que l'objet propre de notre volonté, c'est le bien. Que cette salle, située dans l'endroit le plus élevé de la maison, soit grande pour recevoir Jésus, le Verbe de Dieu, qui ne peut être reçu que par les âmes vraiment grandes. Et donc, le bon Dieu demande une coopération des âmes. Donc, que notre âme soit suffisamment grande pour accepter de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Que ce soit le Père de famille, c'est-à-dire l'intelligence qui dirige, qui prépare cette demeure pour le Fils de Dieu, qu'elle soit purifiée et ne conserve plus aucune des souillures de l'iniquité. On voit encore une fois dans tous ces passages comment les Pères de l'Église élèvent l'âme d'ici-bas vers le ciel. Tout est centré sur le ciel dans l'Évangile et dans la Sainte Bible d'ailleurs. La montée des Juifs, le passage des Juifs en terre promise, de l'Égypte à la terre promise, représente le passage de l'humanité que le bon Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, de cette terre qui passe au paradis qui ne passe pas, du temps à l'éternité. Que le nom du maître de cette maison ne soit point connu de la foule, comme indiquent les paroles de Jésus dans Saint Matthieu. Allez dans la ville chez un tel. Donc il n'a pas voulu donner le nom de cette personne. Saint Ambroise fait remarquer que cet homme a une grande salle au haut de sa maison, ce qui vous fait comprendre quel mérite éminent doit avoir celui en qui le Seigneur vient prendre avec ses disciples un doux repos au milieu des plus sublimes vertus. Donc, cette salle dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ vient préparer la Pâque représente notre âme. De même que notre Seigneur Jésus-Christ va venir préparer la Pâque, faire préparer la Pâque dans cette salle de la ville de Jérusalem, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ veut le même passage, veut venir célébrer la même Pâque dans mon âme. Dans mon âme, lorsque je me confesse en état de péché mortel et que je reçois l'absolution du prêtre, lorsque le prêtre me dit « Allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est la fuite d'Égypte. L'Égypte représente le démon, nous disent les pères d'Église. Donc les Hébreux qui quittent l'Égypte représentent l'homme catholique qui, après une bonne confession ou par le baptême, quitte le royaume des ténèbres pour venir trouver le royaume de la lumière. quitte l'erreur pour venir trouver la vérité, quitte le mal pour trouver le bien. Enfin, un texte d'Origène. N'oublions pas que ceux qui passent leur vie dans les plaisirs de la table et les sollicitent de ce monde ne montent point dans cette salle supérieure et ne célèbrent point la Pâque avec Jésus. Car ce n'est qu'après que les paroles des disciples ont instruit le père de famille, c'est-à-dire l'intelligence, que Dieu vient avec ses indisciples dans cette maison pour y célébrer le festin sacré. Donc il y a des gens qui vont refuser, on voit très bien chez les Juifs, des Juifs qui vont refuser de quitter l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent l'esclavage du démon à la liberté des enfants de Dieu. Et c'est une des raisons des plaintes constantes des Juifs dans la traversée du désert. Parce qu'ils vont évidemment, comme ils se révoltent constamment contre notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu va être obligé de leur envoyer des épreuves terribles. Donc ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, ils vont pérégriner sous le soleil pendant 40 ans, et leurs os vont chez le désert, littéralement. Et ils sont constamment en train de se plaindre, tout le temps. Et une des plaintes, c'est au moins quand on était en Égypte, on avait de la viande à manger, on avait des oignons, on avait ce qu'il fallait, même si on était en esclavage. Il valait mieux être en esclavage en Égypte et d'avoir quelque chose à boire et à manger que d'être ici dans ce désert épouvantable dans lequel on meurt de faim, de froid, de faim et de chaud. Et Dieu a dû envoyer des épreuves vraiment fortes. À un moment, il a dû lui faire sortir des sables du désert des petits serpents qui allaient piquer les Hébreux et mourir comme des mouches. Et notre Seigneur Jésus-Christ va déjà devoir faire un miracle extraordinaire. Il va demander à Moïse de mettre un poteau au centre du camp avec un serpent d'airain. Et tous ceux qui regarderont avec foi ce serpent d'airain seraient guéris après les piqûres des serpents. Ce serpent d'airain représente évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Le poteau au centre du camp représente la croix. Et encore une fois, qui nous a dit ça? Qui nous a révélé que, justement, le passage de la mer rouge représente le baptême? Qui nous a révélé que le sang qui a été badigeonné par les pères de famille juive sur la porte en Égypte représente la messe? Eh bien, ce sont les pères de l'Église, justement, qui nous donnent la clé de l'interprétation des Écritures. C'est pour ça que les explications des pères de l'Église sont capitales. Toutes ces explications que je vous donne, ce ne sont pas de moi. Ce texte, un texte du polycopier, il n'y a pratiquement pas une ligne de l'abbé Lafitte. Ce sont les pères de l'Église. Donc, comprenant que tous nous sommes appelés par notre Seigneur Jésus-Christ pour justement venir célébrer la Pâque avec lui, mais il faut accepter de quitter l'Égypte. Et ces gens modernes qui veulent rester ici-bas représentent ce peuple juif à la nucrède qui refuse de quitter l'Égypte. Il y a des gens qui veulent transformer leur vie pour que la tente dans laquelle nous vivons ici-bas sur la terre devienne une maison princière, qui soit une maison qui dure en permanence. Et le bon Dieu nous rappelle parfois par des éléments très forts, nous rappelle qu'on est qu'ici en passage. On est vivant aujourd'hui, mais demain on n'est pas sûr d'être encore vivant. Vous faites votre prière du matin, il faut le dire. Mon Dieu, merci pour cette nuit que vous venez de me donner. Merci pour cette journée dont vous me donnez le début. Je suis encore vivant ce début de journée. Est-ce que je serai encore vivant ce soir? C'est pas sûr du tout. Je peux être mort ce soir. Mais avec les vieux qui meurent, disent les jeunes. Tu parles. Tout le monde meurt. Y compris les vieux, y compris les jeunes. Les jeunes peuvent mourir. Donc se rappeler encore une fois que sans notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut absolument rien faire. Et je pense que la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est fondamentale pour nous rappeler justement deux choses. La gravité du péché et la grandeur de la miséricorde du bon Dieu sur nous. Pour nous faire comprendre qu'on est sur la terre qu'en passage, ce que je vous ai expliqué en début de cette conférence, nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Il faut viser le ciel. C'est là-haut que le bon Dieu nous attend. Voilà, donc je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.